Il est 5h30 en temps universel, 2h de plus, 7h30 à Paris. Radio France Internationale, l'actualité africaine, Victor Moria, bonjour.
Bonjour Edouard.
Un retour remarqué au Cameroun à la une de votre journal.
Et oui, près de 2 mois après sa dernière apparition publique, alors que les rumeurs sur son état de santé se multipliaient, Paul Biya, 91 ans, est arrivé hier soir à Yaoundé et est retourné dans son palais présidentiel accompagné par les cris de joie de ses partisans. Et puis, les Gabonais vont pouvoir consulter le projet de constitution validé et publié hier par le gouvernement de transition. La junte souhaite notamment transformer le régime semi-parlementaire en régime présidentiel. Des milliers de Touaregs maliens expulsés du sud de l'Algérie. La première réunion des BRICS élargie avec notamment l'Éthiopie et l'Égypte se tient à partir d'aujourd'hui à 15 ans en Russie. Et enfin, le début de la campagne de vaccination contre le Mpox, c'est au Nigeria. Après 7 semaines hors de son pays, le Cameroun, 2 absences remarquées à New York fin septembre et en France début octobre, et surtout de multiples rumeurs sur son état de santé, le président Paul Biya, 91 ans, a atterri à Yaoundé hier soir par un vol parti de Genève. À l'aéroport, il a été accueilli par ses proches collaborateurs et plusieurs milliers de militants de son parti, le RDPC, l'ont acclamé sur le chemin menant au palais de l'Unité. Richard Onenana à Yaoundé.
Madeleine, 31 ans, et sa camarade ont passé plus de 5 heures de temps au rond-point Bastos, à environ 2 km du palais présidentiel de la République, pour apercevoir furtivement la voiture du chef de l'État. La centaine de militants agglutinés ici, comme des dizaines d'autres sur l'itinéraire du président, est venue de la Lekié, un département voisin de Yaoundé, pour être témoin, comme le disaient certains, je cite, du retour du fantôme. Simon-Pierre Edima, maire de la ville d'Oubala.
Le chef de l'État est d'abord un homme qui peut tomber malade, comme tout autre homme. Mais de là à penser que le chef de l'État est indisponible et incapable de continuer à gérer le Cameroun, nous n'avions pas cette impression-là.
Paul Biya regagne ainsi le Cameroun plus d'un mois après sa dernière apparition publique. Une absence qui avait alimenté des rumeurs sur son état de santé. Après son retour très attendu, certains militants appellent le président à être candidat.
Nous souhaitons de nouveau qu'il se représente. C'est à lui de décider, il a le dernier mot.
Âgé de 91 ans, Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982, soit 42 ans. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Le projet de nouvelle constitution gabonaise est connu. Plus d'un an après le coup d'état militaire, le texte amendé depuis la première version remise fin août au président de la junte, Olingi Nguema, a été validé en Conseil des ministres jeudi dernier. Le premier ministre de transition, Raymond Dong Sima, a rendu publique la version définitive hier. Il demande aux Gabonais d'en discuter et de se l'approprier en vue du référendum le 16 novembre prochain, duquel il espère une majorité franche. Parmi les 173 articles, la constitution prévoit un régime présidentiel avec une limitation du nombre de mandats, mais ce n'est pas l'unique changement. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Les candidats doivent aussi être mariés à une personne de nationalité gabonaise, née d'au moins un parent gabonais et lui-même gabonais. Pour briguer le fauteuil présidentiel, il faudra aussi parler au moins une des langues nationales dont aucune n'est pourtant enseignée à l'école à ce jour. En plus, pour éviter toute confiscation du pouvoir par une même famille, il est interdit aux conjoints et aux descendants du président de la République de se porter candidat à sa succession. Si cette disposition existait dans l'ancienne constitution, Ali Bongo n'aurait pas, par exemple, pu succéder à son père Omar Bongo en 2009. Le projet de constitution reconduit également la notion de vacance temporaire du pouvoir, introduite dans l'ancienne constitution lorsqu'Ali Bongo avait été foudroyé par un AVC. Et pour finir, désormais, le 30 août de chaque année, les Gabonais célébreront la fête de la libération en mémoire du coup d'État qui a mis fin au régime des Bongo père et fils. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Et le projet constitutionnel est en ligne sur le portail du gouvernement gabonais et les comptes du CTRI sur les réseaux sociaux. Paye Sayed est officiellement engagé dans un deuxième mandat, 2 semaines après une victoire écrasante à l'élection présidentielle tunisienne, remportée selon les résultats officiels avec plus de 90% des voix. Le président a prêté serment hier devant les parlementaires. Seuls 2 candidats avaient été autorisés à se présenter contre lui, dont 1 avait été arrêté le jour même de l'officialisation de sa candidature pour faux parrainage supposé. Le président tunisien semble plus que jamais seul aux manettes et il n'a pas manqué dans son discours de le faire savoir à ses éventuels opposants. On écoute un extrait de sa prise de parole.
Il n'y a pas de place pour les traîtres, ni pour les collaborateurs. Comme il n'y a pas de place non plus sur notre terre pour ceux qui se jettent dans les bras de la colonisation. Les défis qui attendent la Tunisie sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer ici. Mais il faut les relever pour écrire une histoire nouvelle de la Tunisie. Notre objectif est de donner vie à un pays dans lequel chaque Tunisien et chaque Tunisienne puisse vivre en toute liberté et dignité. Certains ont des comptes à rendre et il n'y aura aucun retour en arrière à ce sujet. Nous ne renoncerons à aucun centime dérobé au peuple tunisien. De cette tribune et en ce jour particulier, je veux dire qu'il n'y a pas de place dans notre cher pays pour quiconque n'œuvre pas à la réalisation des espoirs de notre peuple.
Raïs Sayed, des propos recueillis par Amira Swilem à Tunis. Un débat entre un Premier ministre et son prédécesseur. C'est le défi lancé par Ousmane Sonko, actuel chef du gouvernement sénégalais, à Amadou Ba, qui a occupé ses fonctions entre septembre 2022 et mars 2024. C'était sous la présidence de Macky Sall. Amadou Ba, candidat aux législatives, tenait hier après-midi une conférence de presse lors de laquelle il a réfuté pour la première fois les accusations contre le régime de Macky Sall d'avoir précipité le pays dans une situation économique catastrophique. Quelques heures à peine après, Ousmane Sonko a publié un message où il se réjouit, je cite, qu'Amadou Ba ait décidé de sortir de l'ombre et de ne plus se cacher derrière ses mercenaires de la plume et autres chroniqueurs. Je lui offre donc une belle opportunité de s'expliquer devant le peuple, poursuit-il, un débat public contradictoire sur la situation dans laquelle ils ont plongé le pays et sur sa responsabilité personnelle. Fin de citation. Plusieurs milliers de Touaregs maliens ont été expulsés par l'Algérie. De l'autre côté de la frontière, ils avaient trouvé refuge près de Tinzawatène, côté algérien, pour fuir la guerre et les violences. Les expulsés étaient arrivés récemment. D'autres réfugiés plus anciens sont encore tolérés par les autorités algériennes, car les expulsions mises en œuvre hier concernent un site précis soupçonné d'abriter divers trafics. David Bachet.
Ils avaient reçu dimanche un ultimatum de la part des forces algériennes. S'ils ne partaient pas, leurs affaires seraient incendiées. Selon plusieurs sources locales, sécuritaires, civiles et humanitaires, ce sont des familles réfugiées à l'est de la partie algérienne de la ville de Tinzawatène qui ont dû précipitamment franchir hier l'Oued, les séparant du territoire malien. À pied, en plein désert, avec femmes et enfants, trimballant tant bien que mal vêtements et couvertures. Des bagarres avaient eu lieu sur un site que les autorités algériennes soupçonnaient d'abriter divers trafics, d'armes notamment. Il ne s'agit donc pas d'une expulsion généralisée, mais d'une mesure ciblée, même si c'est la totalité des familles installées sur ce site qui en font les frais. Des Touaregs d'Aoussac, essentiellement, qui avaient fui la sanglante offensive déclenchée en mars 2022 par l'État islamique dans la région de Ménaka. Une source humanitaire note que des dizaines de milliers de Touaregs du Mali sont toujours présents en Algérie, accueillis ou plutôt tolérés, puisqu'ils ne disposent pas du statut de réfugiés et ne peuvent pas déposer de demande d'asile. Les autorités algériennes tentent d'éviter les regroupements et aucun camp de réfugiés n'a été ouvert dans le pays pour les Maliens venus y chercher protection.
David Baché. Au Burkina Faso, l'ONG Médecins Sans Frontières ferme provisoirement l'une de ses missions à Djibo, une ville du nord du pays. MSF invoque une multiplication d'incidents sécuritaires dans cette ville cernée par les groupes djihadistes. Dans son communiqué publié hier, MSF affirme notamment que l'un de ses membres est décédé en septembre à Djibo dans des circonstances encore non élucidées. Les différends au sein du Front populaire ivoirien se régleront en partie devant la justice ce mardi. Le président du FPI, Pascal Affine-Guessant, doit répondre à une assignation devant le tribunal de première instance d'Abidjan. En cause, la plainte déposée par Pierre Dagbo-Godé, lui-même cadre du FPI, qui demande l'annulation ou la suspension du congrès du parti prévu les 8 et 9 novembre. Il conteste notamment la rupture du partenariat du FPI avec le RHDP, entériné au cours d'une réunion de ce comité central en septembre. Depuis, plusieurs militants militants du FPI ont ouvertement remis en question la légitimité de Pascal Affine-Guessant dans les médias. Le FPI a de son côté suspendu dimanche Pierre Dagbo-Godet, assurant que sa démarche n'engage que sa personne. Ils étaient 5 depuis des années. Ils se retrouvent pour la première fois à 10. Le premier sommet des BRICS Plus s'ouvre ce mardi à Kazan, en Russie. En plus des 5 membres habituels, le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se joignent à la table de cette alliance économique, pensée comme une alternative à l'hégémonie occidentale. Mais qui dit nouvelle alliance, dit aussi compromis, surtout face aux nombreux différents politiques qui opposent les nouveaux pays membres. Walid Diallo.
C'est une alliance de pays qui ont pourtant bien du mal à s'entendre. Les nouveaux arrivants africains, l'Égypte et l'Éthiopie se disputent le contrôle du Nil. En mer Rouge, les attaques des Houthis bloquent l'accès du canal de Suez, ce qui déstabilise l'Égypte et le trafic commercial chinois. Or, les Houthis sont financés et soutenus par l'Iran, désormais membre des BRICS. Aussi, à défaut de s'entendre politiquement, les BRICS s'accordent sur la possibilité d'une alternative à l'Occident, car avec cet élargissement, ils représentent près de 37% du PIB mondial. Une opportunité d'envergure pour l'Égypte qui fait face à une pénurie de dollars et serait soulagée de pouvoir emporter du blé et d'autres produits des BRICS Plus dans une autre monnaie que le dollar. Leur attractivité est telle que l'Algérie, candidate déçue à l'intégration, a tout de même souhaité financer la nouvelle banque de développement des BRICS Plus à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Car pour le président Tebboune, la banque des BRICS est considérée comme la nouvelle banque de développement équivalente à la Banque mondiale.
Weli Diallo. Le Nigeria lance sa campagne de vaccination contre le Mpox. 9000 doses vont être distribuées, principalement dans le sud, foyer de l'épidémie. Au total, 103 personnes ont été infectées cette année. Aucun décès, mais le Nigeria, avec ses 230 millions d'habitants, ne prend aucun risque. C'est une course contre la montre pour éviter une flambée épidémique, explique le docteur Muyi Aina, directeur exécutif de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaire, l'agence chargée de la campagne d'immunisation.
4 États figurent en tête de la liste en termes de nombre de cas confirmés. Cross River, Bayelsa et Akwa Ibom, tous 3 situés dans le sud du pays, suivis de l'État d'Enugu dans la partie sud-est du pays. C'est donc là que nous concentrons nos efforts et au sein de ces États, car nous n'avons en notre possession qu'environ 9000 doses au total. Nous en avions 10 000, mais nous avons fait don de 1000 doses au Rwanda. Nous ciblons les travailleurs de santé de première ligne qui sont dans ces établissements et centres de diagnostic pour le Mpox. Nous n'avons pas des chiffres très élevés de toute façon, mais ce que nous essayons de faire, c'est de veiller à ce que cela ne soit pas le cas. Car comme vous le savez, le Nigeria est un pays très densément peuplé. Et nous ne voulons pas avoir une épidémie massive, ce qui rend la stratégie de vaccination préventive tout à fait pertinente.
Le docteur nigérian Muyi Aina au micro de Christina Okello. Moroni dénonce une décision unilatérale et injustifiée au lendemain de la confirmation par le gouvernement malgache de fermer ses frontières maritimes avec les Comores. En cause, une possible propagation du choléra, explique Antananarive. Aucune alerte sanitaire n'a pourtant été émise par l'Organisation mondiale de la santé, lui répondent les autorités comoriennes. RFI, 5h42 en temps universel, toujours 2 heures de plus ici à Paris. C'est l'heure de retrouver Edouard Dupénoat pour la suite des RFI Matin.
Merci beaucoup Victor Moria, on vous retrouve tout à l'heure.